La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
François, votre invité, c'est le directeur de la rédaction du magazine Investir.
Bonjour François Monnier.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique. Emmanuel Macron vient de relancer l'idée d'une vraie union des capitaux en Europe. Alors c'est un serpent de mer total depuis des années. Tout le monde, en partie tout le monde, aimerait bien cette union des capitaux. Est-ce que c'est un coup politique ou une nécessité ?
Je pense que c'est un peu des deux. Il faut voir que dans l'Union européenne, on a quand même réussi la libre circulation des marchandises et des personnes. On a réussi à créer dans la zone euro, eh bien, la monnaie unique. Mais on patine au niveau des flux financiers. On voudrait davantage qu'il y ait des investissements transfrontaliers en supprimant, eh bien, des règles réglementaires et notamment des règles fiscales. On voit que c'est urgent, bien sûr, il y a la campagne présidentielle qui se dessine, qui approche, ça c'est prévu pour juin, mais on veut surtout essayer de créer de la croissance. Au cours des années précédentes, on a vu que la croissance, elle a été surtout financée par une explosion de la dette publique. On a une dette aujourd'hui qui avoisine les 3100 milliards d'euros. Ça représente à peu près 112% du PIB, alors qu'en 2000, on était à moins de 60% du PIB. Donc on voit qu'il y a quasiment un doublement de ce ratio et il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. On a déjà un problème sur le déficit. Le 26 mars, on va annoncer un déficit qui dérape. On avait prévu d'avoir un déficit inférieur à 5%, déficit public inférieur à 5%, ce sera largement au-dessus.
On disait 4,9, ce sera 5,6 probablement.
Probablement. Et ça veut dire qu'on va probablement encore déraper sur 2024. L'objectif de 4,4% ne sera probablement pas tenu parce
totalement
que la marge est trop haute à fin 2023. Donc la dette publique, on a beaucoup de marge de manœuvre pour créer de la croissance. Et puis surtout, on va avoir une explosion d'ici quelques années du coût de cette dette avec la forte hausse des taux. Il y a toujours un effet de décalage. Mais avant, on empruntait à 0%. Et aujourd'hui, le rendement, le taux, le coût de la dette à 10 ans, c'est 2,8%. Donc,
comment est-ce que tout cela nous amène à une union des marchés de capitaux ?
Eh bien, tout simplement, on essaie de regarder où est-ce qu'on a des trésors. Et on a un trésor caché, c'est l'épargne. L'épargne des Européens, l'épargne des Français. Si on regarde ce qui se passe en France, eh bien, l'épargne des Français, elle est deux fois plus importante que le montant de la dette publique. On avoisine aujourd'hui les 6100 milliards d'euros.
Là, vous parlez bien de l'épargne type livret A, assurance vie, les actions et tout. Hein.
Absolument. Dans les 6100, si on va regarder, on a à peu près 60%, c'est ce qu'on appelle l'épargne de taux. C'est l'épargne, l'assurance vie en euros, les livrets A, les comptes à terme. Et puis, vous avez après 40% en fonds propres. Donc, c'est les actions. Actions cotées, les actions dans non cotées de private equity et ce qu'on appelle les unités de compte qu'on peut retrouver dans l'assurance vie. Donc, c'est un véritable trésor. Et ce trésor, l'idée de nos hommes politiques, c'est de dire on va essayer de l'optimiser, de mieux l'allouer pour créer de la croissance qui va nous permettre après de rembourser cet endettement.
Il ne s'agit pas de le prendre et de rembourser la dette,
non,
on est d'accord.
Il s'agit de le flécher.
Oui.
Mais historiquement, on a toujours essayé de flécher ça. Puisque l'assurance vie en euros, son objectif premier, c'était au départ d'acheter de la dette publique. Le livret A, il y a des négociations en cours, ça va être d'en allouer une partie à notre industrie de défense. Et donc là, l'idée, c'est de voir ça beaucoup plus grand à l'échelle de l'Union européenne pour voir si l'épargne des Français, des Italiens, ou des Espagnols, ou des Allemands, bien sûr, parce que les Allemands épargnent encore un peu plus que les Français.
Ah oui.
On peut optimiser avec une meilleure allocation géographique, une meilleure allocation sectorielle, et ainsi créer de la richesse pour se dire finalement c'est ce trésor caché qu'on peut optimiser. Donc on le prend
pour
pas,
optimiser, je
mais on le flèche.
Il faut abolir certaines frontières techniques, juridiques, réglementaires, de fonctionnement en fait des marchés.
Absolument, il faut changer un petit peu la règle du jeu, technique et aussi fiscale. Il faut peut-être voir si on peut créer une véritable bourse européenne. On a déjà vu que Euronext s'était étendu sur cette grande place, mais
Euronext, donc ça veut dire la gestion de la bourse de Paris, mais aussi de Milan, de Copenhague, d'Oslo notamment, d'Amsterdam.
Absolument, avec Deutsche Börse, qui est la grande bourse allemande. Est-ce qu'on aura demain une bourse unique pour faire concurrence à Wall Street et donc optimiser la circulation? Une entreprise qui veut se faire coter en France ou en Italie ou en Allemagne, pour elle, ça n'a pas de grand intérêt, puisque l'idée, c'est une fois que vous êtes coté sur une place, vous avez l'ensemble l'accès à l'ensemble des places, à l'ensemble des épargnants. Mmh.
Ça, donc, à la limite, la fusion ça entre Euronext et Deutsche Börse, ça pourrait se faire comme ça, sans que...
Ça pourrait être facile, sauf que ça s'est jamais fait. Oui. On a vu que dans l'histoire, la Bourse de Paris s'est peut-être plutôt rapprochée de Wall Street que de nos amis allemands. Donc on voit que parfois, c'est un peu compliqué. Comme on peut le voir aussi dans la défense, parfois on a des acteurs européens qui préfèrent acheter américains que français. Et puis, on peut imaginer aussi un plan d'épargne pan-européen. Ça, c'est la grande idée de Bruno Le Maire, c'est de dire d'essayer de créer un grand plan qui puisse être accessible à l'ensemble des ménages de l'Union européenne. Mais on voit que les Allemands n'en veulent pas trop. On peut imaginer que, bien sûr, comme les Allemands épargnent beaucoup, ils n'ont pas envie forcément que leur épargne puisse circuler et puis partir finalement de l'autre côté du Rhin pour aller en France, en Italie ou en Espagne.
Donc, oui, parce que tout ça impliquerait aussi une gouvernance nouvelle.
Ben, c'est une gouvernance. Et puis, encore une fois, le trésor des ménages, ben, c'est une sorte de trésor national. Donc, on n'a pas envie de le partager comme ça. Ou en tout cas, on veut des garde-fous. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
Est-ce que ça a des chances d'aboutir? C'est toute la question. Parce qu'on comprend de tout ce que nous dites que les Allemands sont plus que réticents. Est-ce qu'on peut avancer sur certains dossiers?
Je pense qu'on va aboutir. La question, c'est quand? Ça va prendre du temps, mais tout le monde est à la recherche de croissance. Et nous sommes arrivés à un stade où l'endettement public n'est plus la solution. Parce que on est sorti dans une de notre zone, j'ai envie de dire, de confort depuis très longtemps, et on rentre dans une période à risque avec ce coût du financement, parce qu'il va falloir probablement augmenter la dette pour payer les frais financiers liés à cette dette. Et là, bien sûr, on rentre dans une zone de fortes turbulences.
Là, vous parlez de la dette publique, mais est-ce que, quand on parle de ces très grosses start-up, cette start-up devenue de très grosses start-up, des scale-up européennes qui n'arrivent plus à grossir, qui partent aux États-Unis, c'est aussi un peu à cause de cette absence d'une union des marchés de capitaux?
Bien sûr, si on peut dire qu'une grande société peut trouver des financements aussi rapidement qu'à Wall Street, avec une grande place, que ce soit dans le private equity ou sur le marché action, ça peut donner des idées de dire on va rester en Europe. Après, il faut voir que les Américains ont quand même un temps d'avance avec des financements ultra rapides et ils sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui les Européens.
Il y a aussi une question culturelle, effectivement.
Bien sûr. On a quand même, notamment peut-être en France, la peur du risque. On préfère avoir un rendement faible mais garanti. Et c'est pour ça que on a les Français qui préfèrent, bien sûr, l'assurance vie en euros qui rapporte peu, voire parfois pas du tout, à la bourse qui est le meilleur déplacement, puisque d'un côté, vous avez un rendement de 2-3%, alors que dans l'autre, vous avez une performance annuelle sur longue période de 7-8%. Mais cette peur du risque fait que ça freine beaucoup de nos concitoyens.
Il faudrait un jour que vous nous fassiez un peu une grande fresque sur cette différence culturelle, cette peur du risque chez nous, l'aversion au risque versus la capacité à aller vers le risque qu'ont les États-Unis, que ce soit les ménages ou évidemment les grandes entreprises, les grands fonds de pension. François Monnier, le patron de la rédaction d'Investir, merci beaucoup d'avoir été ce matin, encore une fois, dans les voies de l'économie. Très bonne journée.